Vous écoutez RTL. On refait le match.
Eugène Saccomano sur RTL.
Eh bien, on va refaire le match, on va refaire les matchs et le match de demain aussi, qui n'a pas commencé, mais nous, on va le refaire. Alors donc,
on essaie de pas se tromper comme
c'est
ça.
Là qu'on est voilà. Plus fort, généralement.
On refait le match ce soir avec Gilles Verdez. Salut Gilles.
Bonsoir Eugène.
Avec Pascal Pro d'ITélé et RTL. Salut.
Bonsoir Eugène.
Vincent Macheneau de France Football.
Bonsoir Eugène.
Qui fait un très beau numéro demain, qui paraît demain, avec une grande séquence sur Thierry.
Ah, et c'est Thierry Roland, oui. Thierry Roland. Qu'il mérite bien.
Ouais, qu'il mérite.
Très beau papier de Jean-Marie Lanoué.
Voilà. Et puis avec Eric Bilderman de l'équipe magazine.
Salut.
Salut Eric. Et puis Chini.
Eh oui.
Cyprien Chini.
Bonsoir Eugène.
Pour RTL. Alors écoutez, on va parler de l'équipe de France peut-être d'abord. Où on parle à votre convenance. Hein. Ou l'équipe de France, où on reste un petit peu sur les matchs de ce soir. Non, l'équipe de France, les nouvelles fraîches pour le match de demain. Hein ?
Oh oui.
Oui,
oh
alors, oui, oui. Demain.
C'est vous le patron. Hein.
Les matchs n'étaient pas terribles ce soir.
Alors, avec le micro
allumé. Non, mais ils sont quand même instructifs parce que c'est le groupe qui délivre le futur adversaire de l'équipe de France et qu'on sait désormais
que ce sera
ou l'Italie. Non.
Comment non ?
Ce sera l'Italie ou l'Espagne.
Eugène nous va finir premier déjà.
Déjà l'actuel des choses avant déjà, le match de l'équipe de France.
Mais si on se qualifie.
Entendu,
Eugène,
en supposant que.
Qu'on se qualifie. En supposant qu'on se qualifie déjà.
Vous conviendrez que le choix des possibles s'est réduit. Nous avons deux adversaires, l'Espagne ou l'Italie. Vous vous dites l'Espagne parce que vous êtes en deux.
Non, j'ai dit l'Italie moi.
Oui, vous dites l'Italie parce que
c'est
vous
êtes par battre la Suède.
Devin,
ou faire un match nul à la rigueur.
Pas tous en même temps là, on a tous pas les mêmes temps.
Vous conviendrez que on peut être qualifié, ça je pense qu'on le sera. Je suis pas à 100% certain que nous serons premiers.
Ah ouais, peut-être pas, oui.
Bah vrai, oui, peut-être pas comme vous dites.
Alors, donc effectivement, ça changera la donne pour l'adversaire.
Ça c'est sûr.
Alors les
aussi Eugène. C'est le sens de ma première remarque.
Voilà. Alors donc l'équipe de France est arrivée à Kiev aujourd'hui. Il y a eu une équipe de France qui s'était bien préparée dans son camp.
À Kirchha,
voilà.
C'est pas ici très chaud à Kiev.
C'est pas tout à fait un camp, c'est un camp d'entraînement.
Oui, un camp d'entraînement, oui.
À Kirchha.
Et à Kirchha, donc, avec une conférence de presse hier soir qui a été pas discutable, mais discutée. On en a beaucoup parlé de cette conférence de presse de Laurent Blanc, puisque lui n'a pas beaucoup. Il a parlé, mais.
Il n'a pas dit grand-chose.
Langue de bois.
En même temps, il ne va pas nous dévoiler son équipe, là, du match. C'est pas son style.
Peut-être qu'il ne la connaît pas, d'ailleurs.
Il a tout compris. Et d'ailleurs, les journalistes, ça m'étonne d'eux, mais ils sont quand même tombés dans le piège sur la composition des derniers matchs.
Et pas vous
savez. Vous savez qu'à l'époque, on espionnait les huis clos. Hein, tant à Clairefontaine en se cachant dans les bois, on montait dans les arbres, tant dans les stades. La veille de match, on allait se cacher pour avoir la bonne composition. Et là, Blanc a tout compris, donc il donne de fausses chasubles. Il met de faux plans à l'entraînement et les journalistes tombent dans le panneau. C'est très malin de sa part, parce que personne n'a la bonne équipe.
Mais même ses joueurs ne l'ont pas. Même ses joueurs ne l'ont pas, puisque Clichy nous racontait qu'il avait appris
dans le bus,
au stade qu'il allait être titulaire à place des vrais, qu'il aimerait bien le savoir avant pour se préparer.
Effectivement, puisque la veille du match contre l'Ukraine, il y avait une composition. On parle là des deux journaux essentiels qui parlent de l'euro. Enfin, tous parlent de l'euro, mais l'équipe annonçait une équipe et le Parisien une autre. C'est finalement plutôt celle du Parisien qui. Mes amis d'équipe sont très observateurs, mais là, ils se trouvent.
Rappelle qu'on s'est partenaire avec l'équipe, donc.
Non, mais ce qui est intéressant, quel est l'intérêt, au fond, pour un entraîneur de ne pas donner à la presse son équipe ?
C'est pour l'adversaire.
Non, mais bien sûr, c'est pour l'adversaire.
On est d'accord. Mais en même temps. Qu'est-ce que ça changerait, l'adversaire?
Ah non, Pascal, non. Pour des schémas tactiques et des. Non, c'est pas quantité négligeable de savoir comment
mais
un adversaire va jouer.
Mais Gilles,
vous pensez vraiment que
on cache les blessés jusqu'au dernier moment, Pascal.
Vous pensez sérieusement que la Suède ou l'Italie, si on la rencontre, ne sait pas comment va jouer l'équipe de France et qu'elle ne sait pas 90% de l'équipe de l'Italie?
Les 10%, c'est les 10% qui peuvent faire la différence. Si, pour rencontrer l'Italie, Laurent Blanc surprend tout le monde, remet Nasri dans le couloir
à la place de Menez, mais c'est pas du tout la même manière d'aborder le match. On sait qu'on a un joueur qui va déborder, alors qu'on a de l'autre côté.
Bon, Frédéric, vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que ça a de l'incidence?
Mais
c'est
oui,
pas,
hein,
c'est du folklore.
Ça a tellement pas d'incidence non. que tout le monde le fait. Ouais. Alors si tout le monde le fait juste par folklore, je veux bien l'admettre. Mais j'ose imaginer qu'il n'y a pas que des abrutis à la tête des équipes qui ne fonctionnent qu'avec l'idée du folklore et qui se mettent une plume dans le derrière juste parce que c'est du folklore.
Ah, je pense que si vous donnez, on ne pourra jamais faire évidemment la comparaison, mais si vous donnez à chaque fois l'équipe de France aux adversaires la veille, ou si vous ne la donnez pas, je ne suis pas sûr que ça influe sur le résultat.
Non,
Eric, c'est dans ton journal aujourd'hui qu'il y avait un très très bon écho. Les journalistes suédois donnaient en plein sur le salon de visionnage des Anglais. Vous voyez tous les schémas, toutes les compositions, tout. Bien apparemment, sûr. Amren l'a su. Ça n'a pas empêché l'Angleterre de battre...
Ça joue quand t'es joueur, quand on te dit voilà ton attaquant, le mec que tu vas prendre au marquage qui va venir dans ta zone, il joue de telle façon et que le jour du match tu te retrouves avec un type qui joue pas du tout de la même façon et que c'est pas le même, je pense que ça te perturbe quand t'es sur le terrain. Bah oui, un petit peu quand même.
Oui.
Alors donc
la majorité a toujours raison, donc vous avez raison.
Donc
elle est courte, mais
il se trouve.
Vous êtes un démocrate, cher ami.
Il se trouve qu'hier.
Au moins
un
républicain.
Il se trouve qu'hier, il a été un comportement très rapide, très républicain notre ami Pro hier, parce que, enfin, j'en dis pas plus. Bien. Alors, donc hier, notre ami Laurent Blanc.
Mais c'était pas hier, d'abord c'était tout à l'heure.
La conférence de presse, c'était ce soir.
C'est vrai que bon, il est venu comme toujours. Il a pas dit grand chose, c'est entendu. Mais enfin, quels sont les points d'interrogation que nous avons dans cette équipe? Ils sont quand même extrêmement limités. La charnière centrale est la même. À gauche, ça sera Clichy parce qu'il a été bon. À droite, ça sera évidemment
Debuchy. Justement, moi, je suis pas sûr que ça sera Clichy.
On sait pas.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Non. Je crois même que ça sera Evra, à mon avis.
Je crois que c'est un puzzle l'équipe de France aujourd'hui. Il y a peut-être 8 pièces sur 11 qui sont constituées. Le poste de latéral gauche, même si Clichy a donné satisfaction, reste quand même un poste qui fait débat et en tout cas qui, dans l'esprit du sélectionneur, n'est
mais
pas
ça
tranché.
Change rien d'ailleurs dans la tactique de Laurent Blanc. Pardonnez-moi de savoir que Clichy ou Evra joue, mais qu'est-ce que ça change? Lequel est le plus offensif? Vous trouvez que Clichy est plus offensif qu'Evra?
Il est meilleur offensivement, je veux dire.
Alors ça, c'est vrai. Mais autrement, dans l'apport du
c'est
jeu,
pour ça que demain,
c'est évidemment les mêmes puisque les postes sont doublés.
C'est bien pour ça que demain, il va mettre Evra, parce qu'il n'aura pas besoin d'un arrière très, très offensif. Et ensuite, Clichy, on le sait bien, il faut le ménager. Peut-être qu'il n'est pas, apte à faire 4-5 matchs.
Il a été bien, Clichy, offensivement l'autre jour. Défensivement, il a été un petit peu en difficulté. Oui. Mais au moins, lui, il s'est centré et donné des bons ballons.
Non, mais il y a des interrogations sur le joueur qui ont des cartons, par exemple.
On va y venir après. On va ne mélangeons pas tout. Nous sommes derrière.
Oui, donc c'est alors, les quatre sont là.
Bon, la charnière centrale, on est toujours pas.
Justement, c'est pour ça que je vous dis carton. Debuchy, il a un carton.
Mais ça changera rien. Il a
droit de aussi. À droite pour
que tu fasses pas changer la défense.
Cyprien ne nous emmène pas sur une polémique. Il a répondu, Laurent Blanc.
Il a
répondu clairement que comme l'équipe de France n'était pas qualifiée, on ne pouvait pas en prendre en compte ce que tu dis.
T'inverses son discours. Son discours, il est. Il dira après, j'ai changé ce joueur, non pas parce qu'il avait un carton, mais parce que tactiquement ça m'arrangeait.
Oh.
Tu sais très bien. Ah non, mais ça veut rien dire.
Il ne peut pas se permettre aujourd'hui. L'équipe de France arrive, il ne veut pas se permettre aujourd'hui de dire. Vu qu'on est en passe de se qualifier, je vais y aller mollo sur les cartons, parce que si la France se fait sortir demain, passera pour le dernier des abrutis. On lui dit quoi? Mais la France n'était pas qualifiée, t'as quand même choisi de changer ton équipe pour une histoire de carton complètement hypothétique. En revanche, comme il est pas bête, il risque de le changer. Vous verrez si demain il n'y a pas Debuchy, il vous expliquera effectivement après que c'était tactique, mais c'est pas du tout tactique. Quel intérêt de mettre Debuchy qui risque d'être suspendu au prochain match, alors que vous avez Réveillère qui peut parfaitement faire la main.
Et en plus, tu lui permets de souffler un peu.
Bah oui.
Voilà,
c'est une belle démonstration de M. Sini. C'est possible.
Je pense que tu es d'accord avec nous ce soir.
Non, mais c'est.
Je pense pas que les changements auront lieu à ce poste-là quand même.
Pardon?
Je pense pas que les changements auront lieu à ces postes-là quand même. Je pense que ce sera au milieu que ça va changer. Nasri va être ménagé, à mon avis. À mon avis, je pense.
Mais là, tu peux quasiment au milieu.
Parce que je pense qu'il va être ménagé.
Remplacé par Martin, alors?
Mais il a pas de. Il a
un
carton.
Vous faire rentrer Mvila et associer à Nasri.
Il a pas de carton,
Mais il a pas de carton, Nasri.
Non, mais c'était pas dit que les joueurs qui avaient des cartons ne joueraient pas.
Ah, donc il est ménagé, il a pas de carton. Mais ménager pourquoi? T'as trois matchs, enfin, soit ménager de quoi? Le prochain match est dimanche.
Je ne suis pas du tout sûr que Nasri soit titulaire.
Peut-être parce qu'il n'est pas bon, mais pourquoi ménager? Ménager, ça voudrait dire qu'il est très bon et qu'on le garde pour la fois suivante.
Parce que c'est important. Tu as constaté dans le match contre la Croatie que les Espagnols manquaient un peu de fraîcheur.
Bien sûr.
Un match, deux matchs, trois matchs, tu fatigues un peu. Il faut avoir joué au foot.
Le troisième match commence à être difficile en plus.
Bien sûr, c'est le troisième match.
Et avec des températures de 27 à 32 degrés. Il faut aussi tenir compte de ces éléments-là. Je pense qu'on peut quand même envisager de faire sortir Nasri, non pas parce qu'il n'a pas été bon, mais et en même temps se dire, dans l'hypothèse où, à un moment donné, Martin peut rendre un service utile pour la suite de la compétition, il faut qu'il ait du temps de jeu, parce que tu as des joueurs qui vont faire...
C'est un peu la même chose pour Cabaye, alors.
Mais oui, mais en plus, Cabaye, il a un petit souci physique.
Non, mais indépendamment du souci physique, il faut le ménager.
Ah oui, bon. Mais là, on est
d'autant qu'on a l'occasion, on a un mis là.
Heureusement que vous n'êtes pas sélectionnaire. On a mis deux ans pour avoir une équipe à peu près convenable qui joue pas mal et vous voulez tous les virer.
Non, mais
on
ne
veut pas tous les virer.
Faire des roulements, tout simplement. Je te signale qu'entre le premier et le deuxième match, le sélectionneur a changé trois joueurs. Qu'est-ce qui l'interdit aujourd'hui?
C'est des joueurs clés de Bouchy et Nasri. Hein.
Il peut en changer.
C'est les meilleurs.
Il va peut-être changer deux. Moi, je pense qu'il va changer un ou deux. Parce qu'il y a aussi Diarra qu'il faudrait faire reposer aussi. Diarra. Et remettre Mvila pour le relancer et laisser.
Bon, sachez qu'il y a de disponible pour le milieu de terrain Mvila, qui a joué seulement quelques minutes au jour. Alors, il y a un autre cas qui se pose, c'est l'ailier droit.
Enfin, absolument.
L'attaquant côté droit.
Couloir droit.
Couloir droit. Et là, il y a deux candidats qui sont Valbuena et Ben Arfa. Et l'un des deux peut jouer éventuellement.
Menez, qu'est-ce que vous en faites?
Menez, justement, il a un carton et deux, tu peux le réserver pour le match suivant. Mais en même temps, je crois qu'il n'est pas dans cet esprit-là.
Non, parce que Menez vient de se relancer, faire un bon match dans la continuité.
Voilà, là, vous me surprenez parce que vous êtes en train, en clair, de couper une dynamique qui était intéressante. C'était un des meilleurs matchs de l'équipe de France depuis longtemps. On avait des réserves. Moi, le premier, je ne pensais pas qu'on jouerait aussi bien, etc. Et vous me dites, le match suivant, il faut les ménager, il faut qu'ils se reposent.
Je ne pense pas qu'on coupe une dynamique. D'abord, c'est une dynamique collective, cette équipe de France,
de groupe.
On voit vraiment que c'est un groupe. Ce n'est pas que 11 joueurs. C'est pour ça, au contraire, qu'il a intérêt à faire tourner pour tous les maintenir sous pression.
Alors après, on ouvre là 4 ou 5 dossiers dans le feu du débat. Il est bien évident que personne ici ne plaide et ne croit que ces 4 ou 5 dossiers vont aboutir à 4 ou 5 changements. Mais parmi ceux-ci, qu'il y ait 2, voire 3 changements, exactement comme ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième match, me paraît relever d'un équilibre de groupe. Et en même temps, à partir du moment où l'ossature, la colonne vertébrale, 8 pièces sur 11 du puzzle sont bien construites, sont bien liées les unes avec les autres, je vois pas où est le problème, où est le drame.
On refait le match.
Eugène Saccomano sur RTL.
On refait le match avec des changements par rapport au deuxième match contre l'Ukraine, ou très peu de changements, ou pas du tout de changements. Je crois qu'il va quand même changer un ou deux joueurs, sinon deux ou trois.
Mais s'il fait deux ou trois changements, après les trois changements entre le premier et le deuxième match, ça vous aura fait 6 changements sur le total des poules. Oui, mais c'est pas grave, il aura fait tourner à peu près 6 fois. Grosso modo, ça vous fait un roulement qui fait que cette équipe de France, si elle arrive en quart et qu'elle est fraîche, on te criera au génie de Laurent Blanc parce qu'il a fait tourner. Et ça vous maintient l'effectif sous pression. Moi, je pense qu'a priori, c'est ce qu'il va faire. Mais trois changements.
De toute façon, avec son expérience des phases finales en tant que joueur, il sait très bien que vous ne pouvez pas aller loin s'il y a de la grogne, des tiraillements au niveau des remplaçants, s'ils ne sont pas impliqués. Donc, il fait tout pour les impliquer. On parle déjà plus de coiffeur parce que le troisième match
c'est
a de l'importance.
C'est la démocratie participative de l'équipe de France.
C'est essentiel.
Tout le monde,
par exemple,
sur le même plan. L'égalité des chances.
Qui, à mon avis, ne sera pas titulaire, mais qui doit avoir un temps de jeu plus important, c'est Giroud.
Ouais.
Giroud doit jouer un peu plus que quelques minutes. Ouais, alors, je ne le vois pas titulaire, mais il doit rentrer. Benzema doit sortir plus tôt.
C'est une vraie épine dans le pied de Laurent Blanc, ça. C'est que Benzema, pour avoir de la confiance, ça serait quand même bien qu'il marque un but, même si la confiance.
Donc, il le laisse sur le terrain.
Je pense que Blanc, il rechigne plus à sortir Benzema pour faire rentrer Giroud.
C'est son leader.
Si Benzema il marque un but, ça va se débloquer, mais pour l'instant, ça ne se débloque pas.
Alors, écoutez, on va prendre l'équipe avec poste par poste et on va essayer de voir. Je vais vous faire aller un peu plus loin. Qui sort, qui rentre? Le gardien de but, on n'y touche pas.
Non,
bien entendu.
Hugo
Lloris. Arrière droit, premier problème. Est-ce qu'on laisse.
Moi, je pense qu'il va faire rentrer Reveilleur. D'abord, il n'y perdra pas au change.
Je crois.
Et ensuite, contrairement à ça,
il prend aucun risque.
Je ne sais pas qui l'a dit, mais Debuchy n'est pas vraiment un élément essentiel dans l'équipe. C'est un élément important, mais pas décisif. C'est tout.
Voilà.
Reveilleur fera le travail aussi bien que lui.
Vincent Macheneau de France Football.
Bon, je suis d'accord. Mmh. Alors, la charnière centrale, ça, il y a deux attitudes. Soit on continue à faire jouer les deux garçons qui petit à petit, match par match, s'installe dans ce rôle-là, dans ces rôles-là. Et soit on essaie le petit.
Non, mais si vous, ça me paraît pas être un duo sur lequel il faille procéder à des essais, justement parce que ce n'est pas un duo abouti et envoyer le message. Là, on ne fait pas tourner. On sanctionne. Et aujourd'hui, si on sanctionne, on sanctionnerait Rami. Rami est déjà dans un état psychologique de doute. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui le sortir.
Et il y a la phrase de Laurent Blanc, Rami, c'est un nounours, c'est tout, il faut le cajoler, il faut s'en occuper. Ouais. Je pense qu'il a bien compris le personnage et il ne va pas lui casser la confiance.
Mais attention, dans le discours de Laurent Blanc, de Loris, ils ont raison. On n'est pas qualifié, on joue un match très important et la Suède n'est pas en vacances. Donc vous ne pouvez pas changer deux pièces en défense. Mmh. Si on se met à peu près d'accord que le latéral droit éventuellement, deux défenseurs sur quatre, c'est trop, ça déséquilibre.
La Suède n'est pas en vacances, mais ils sont éliminés quand même.
Non mais moi je vous suis
Pas. Mais ils veulent absolument ce match.
Ce sont des supputations qui reposent sur pas grand-chose.
Bah, on est bien léger.
On arrête l'émission. On arrête l'émission.
Pascal, on attend sans savoir.
Vous jouez au sélectionneur là.
Bah, on analyse.
Voilà. Non, c'est la France entière joue au sélectionneur.
Il y a 60 millions de sélectionneurs.
C'est entendu, mais bon, moi, n'ayant pas d'informations, je reste sur ma position.
Ça, tu n'as pas d'infos.
Ben, j'ai pas d'informations sur l'équipe de France. J'imagine que, je répète ce que je disais, qu'elle a été plutôt performante l'autre jour. Je m'étonne de votre démocratie participative et de l'absence de hiérarchie d'une équipe. Il faut même plus parler de coiffeur, c'est ce que vous dites, alors qu'il y a les titulaires et quand même les remplaçants, me semble-t-il. Mais bon, c'est voilà.
Mais il y a surtout un groupe compact de 17-18 joueurs.
Mais en plus,
combien 17-18
ouais, c'est ça.
Et voilà. Alors, ouais. il y a vraiment des coiffeurs.
L'effet démonte ton analyse. On a un groupe de 23 joueurs sur lequel, le premier match, il y a eu 11 titulaires. Puis, ce n'était pas les mêmes au deuxième match. Pourquoi ? Partant de ce postulat-là et partant plus des propos, parce que dans la conférence de presse de tout à l'heure, Laurent Blanc a dit « Mais attendez, vous ne croyez pas que je vais vous dire ce que je vais faire ?» Mais effectivement, il va y avoir certainement quelques changements, ce ne sera pas l'équipe qui a débuté.
Mais sans doute.
Alors peut-être nous ment-il et que ce sera la même.
Non, mais sans doute, mais ça sera à dose homéopathique.
Eh ben, c'est
oui, pas
bien.
Trois,
c'est déjà pas.
Trois, mais il faut bien qu'on essaye de faire une revue d'effectifs.
Cette équipe, de toute façon, on n'a fait que dire qu'il. Enfin, Laurent Blanc, en tout cas, s'est plaint le premier, disant qu'il n'y avait pas eu assez de temps de préparation, il aurait aimé avoir plus souvent sous la main. Maintenant qu'il a tout le monde sous la main, qu'il est presque qualifié pour les quarts de finale, il va en profiter. Il va profiter du match de demain pour essayer deux, trois trucs. C'est évident.
Le mot essayer me paraît très étrange, on n'essaye pas dans un championnat d'Europe, mais je peux me tromper.
Mais non, mais essayer à dose homéopathique, mais ajuster à deux. Il a bien fait d'essayer pour le dernier match là, qu'on a joué.
Mais enfin,
entre l'Angleterre et l'Ukraine.
Moi, je dis pas essayer, je dis adapter.
Voilà, adapter.
Je pense qu'il a fait, on lui a reproché sur le premier match de ne pas faire de coaching, puisque c'est à la 83e minute qu'il procède au premier changement. Là, sur le deuxième match, il fait du coaching. Il annonce déjà l'état d'esprit dans lequel il veut que son équipe se présente sur le terrain. Et il construit son équipe, un, en fonction de l'adversaire, et deux, en fonction de l'état d'esprit qu'il avait demandé aux joueurs.
Lâchez-vous.
Cette équipe était née pour lâcher les chevaux. Donc là, il est dans une logique. C'est une logique de coaching. Moi, j'aime bien les sélectionneurs qui font du coaching entre les matchs. Ça fait partie du boulot.
Et oui.
De toute façon, cet euro, vous pouvez le gagner de deux manières ou aller très loin de deux manières. Vous avez un joueur vedette qui illumine un match ou physiquement, vous écrasez, vous êtes plus fort que les autres. Et non seulement le troisième match de poule, mais les quarts de finale qui sont très rapprochés, ça se joue uniquement sur le physique. Nous, on n'a pas un joueur génial qui illuminera le match. On a un bon groupe. Donc, physiquement, il faut qu'on soit au top. Donc, on est obligé de changer. Les joueurs ne peuvent pas accumuler trois matchs, puis un quart, puis une demi, puis une finale. On attend s'y rapprocher.
Alors, le quatrième défenseur, on en a parlé au début. Il s'agissait donc de
Trichy
ou Evra. On a dit que sans doute, peut-être, Evra. Non, il y a une composition qu'on affiche sur un écran, mais elle est loin de celle qu'on peut imaginer. C'est la composition d'ailleurs de l'autre jour, je crois.
C'est la même.
De l'autre soir, la même.
Donc certains annoncent exactement la même composition.
Oui, certains ne souhaitent pas de changement et pensent qu'il n'y en aura pas. C'est sûr, c'est un débat.
Alors, au milieu du terrain, venons-en au milieu du terrain. Là, il peut y avoir le changement lié à la mini-blessure de Kamaï.
Mais
peut accorder beaucoup plus de temps de jeu à Mvila.
Non, mais
Attendez,
Eugène. Là, pardonnez-moi, ne nous mettez pas sur des fausses pistes.
Ah.
Laurent Blanc a répondu à Kabaï. Il a dit qu'il l'était à 100%.
Exact.
Donc, et Cabaye est le meilleur joueur français.
C'est peut-être
donc,
que de la com, ça, Pascal.
Mais là, il a aussi dit que.
Vous avez raison, c'est possible.
Il a aussi dit que les Bleus étaient prêts pour jouer cette compétition et donc il n'y avait pas de raison de faire de changement tout au long de la compétition parce qu'ils étaient à leur pic de forme aujourd'hui.
Cabaye est le meilleur joueur français aujourd'hui. C'est sans doute le relais en plus sur le terrain de Laurent Blanc. Non, nous entraînons pas dans de fausses pistes. Cabaye sera titulaire.
D'ailleurs, un petit bémol là-dessus sur le relais sur le terrain. Je ne crois pas que Cabaye, par l'exemplarité, par sa façon de jouer, un peu comme l'était dans sa manière, Zizou, c'est-à-dire l'exemplarité, il joue bien, donc on est avec lui et derrière lui, mais ce n'est pas un type qui peut être le relais parce qu'il n'a pas l'aura, il n'a pas la pression qu'il faut mettre sur les autres.
C'est quand même un maître tacticien, c'est un joueur très intelligent qui s'est replacé en cela. Plus que Zidane, il a du Deschamps, ce garçon, quand même, en étant bien meilleur footballeur que Dédé.
On le voit d'ailleurs sur le dernier match, là, et sur le but qu'il marque.
Mais
et
il
sur
parle
le poteau.
Pas. Hein,
non, mais il fait un poteau, et deux fois, il se retrouve en position de frappe et quasiment avant-centre, parce qu'il joue parfaitement ce rôle de piston, et tactiquement, il a parfaitement compris ce que lui demandait Laurent Blanc.
Il n'a pas besoin de parler pour remettre l'équipe sur le droit chemin. Il est comme Xavi, avec ses passes, c'est suffisant, avec son jeu au pied.
Enfin, pour moi, le changement est très évident, c'est poste pour poste, Mvilla à la place de Diarra sur le troisième match. Pour moi, c'est ça, voilà, ça me paraît...
Non, mais ça, c'est possible, vous avez raison.
Ça me paraît un bon changement, parce qu'Mvilla, effectivement, comme disait Eric, a besoin de jouer, d'accumuler du temps de jeu, on en aura besoin plus tard. On n'est pas très riche à ce poste-là, et c'est bien aussi de ménager un peu Diarra, qui est parti sur un très fort tempo.
On peut aussi très bien imaginer que le petit doute qui existe sur l'état physique de Cabaye puisse demain, lors d'un petit réveil musculaire ou à une heure du coup d'envoi, faire en sorte qu'il y ait un plan B qui soit déjà programmé avec, et pourquoi pas, Cabaye qui soit remplacé par Mvilla, Diarra étant maintenu, Nasri qui vienne donc en pointe d'un triangle de récupérateur, lui étant positionné en pointe. C'est aussi une option qui est une option relativement équilibrée, puisque à la fois on maintient l'allant offensif de cette équipe avec les mêmes hommes et on équilibre pour la récupération.
RTL.
On refait le match. Eugène Saccomano.
Et je sais pas si c'est une très bonne idée d'enlever Diarra de cette équipe parce que les Suédois sont assez grands.
Le craignent. Oui.
Non mais d'un point de vue de taille physiquement et voilà sur les coups de pied arrêtés etc. C'est le seul grand joueur en équipe de France et les Suédois sont plutôt grands.
Oui, mais enfin.
Faut sentir Cabaye, alors il est tout petit.
Non, mais voilà, sans faire de l'extrême. Mais tu gardes le seul grand joueur que t'as. C'est pour ça que Blanc l'a pris, d'ailleurs, au détriment d'un Mavouba.
Il est vraiment devenu indispensable. Hein. Là,
il a été très bon depuis qu'il
est absolument, je suis d'accord.
Et quand Blanc, on lui dit pourquoi vous n'avez pas pris Mavouba et vous avez préféré prendre Diarra qui fait une saison pourrie avec l'OM, il dit à ce niveau-là, j'ai Mvilla qui n'est pas le plus grand non plus des milieux de terrain. Il me fallait un milieu costaud, j'ai pris Diarra. Et je lui fais confiance.
Il a été très bon dans un rôle, sans être limité, dans un rôle quand même qui n'est pas décisif. Quoi. Il fait son boulot, il fait bien son boulot, mais de dire de là que Diarra est un joueur qui porte l'équipe.
Il a failli être décisif contre les Anglais.
Il a failli être décisif, c'est bien ce que je dis.
Il a amené sa tête. Oui. Avec Mexès, c'est les deux seuls joueurs de tête de l'équipe de France.
D'accord.
Je crois pas.
Qui a comme joueur de tête en équipe
de France? Mais vous parlez d'un joueur de tête au milieu de terrain, oui. Mais pas dans
les buts.
En même temps, il faut être quand même cohérent. Quand tu dis il a été décisif contre l'Angleterre, il a mis sa tête.
Il était décisif, c'est un peu ironique, c'est un peu à cause de lui qu'on prend le premier but aussi.
Parce que là, je me disais, à un moment donné...
Non, c'était à double sens.
Mais à 23h30, il faut faire du simple sens.
Hein. Non, mais par exemple, Mexès. Mexès aussi, il a failli marquer, Mexès, contre l'Ukraine, sur un coup de pied arrêté. Sur les phases d'arrêt, on a été dangereux deux fois,
C'est sur le corner de Nasri. Où Mexès repart dans la tête et le gardien dévie.
Exactement.
Formidable action.
Donc Mexès, Diarra, on a deux joueurs de tête en équipe de France sur un coup de pied arrêté. Offensif et défensif. Il n'a pas encore mis de tête.
Il n'a pas tort, l'ami Sini, parce que c'est vrai que Diarra est l'un des rares joueurs de tête parce qu'on est en déficit.
Devant, à mon avis, pas devant.
Pas devant.
Contre l'Angleterre, il a failli marquer.
Au milieu du terrain, quand tu fais des têtes, ça sert moins quand même. Mais sur balle arrêtée, vous conviendrez que Diarra, il est là au corner quand même, Thierry.
Rarement.
Ah bon. Mais il est où alors quand il y a des corners offensifs comme défensifs, il est où?
Je ne sais pas, je ne vous réponds pas parce que là, il y a eu un petit problème de...
De prénom.
De prénom.
D'accord.
Alors, où on en était? Je suis toujours là, hein. Je suis toujours là, derrière le micro.
Mais qu'est-ce que j'ai dit?
Il a fait un petit lapsus.
Un petit lapsus.
Thierry.
Ah, j'ai dit, c'est vrai?
Alors, le geste de Nasri proposé par une télévision.
On revient sur le geste de Nasri après son but face aux Anglais.
Ah, d'accord.
Si vous voulez, on peut en reparler, mais on a déjà pas mal parlé ici. Peut-être pas la peine.
Alors donc,
où on en était. Vous avez vu, je fais juste une petite parenthèse d'ailleurs. Parce que ce soir, tous ceux qui ont vu le match de l'Italie et du but de Balotelli, vous avez une image qui sera une des images de l'Euro. Lorsqu'il a marqué, un de ses partenaires est allé vers lui et lui a mis la main sur la bouche, en référence à ce qu'avait fait évidemment Nasri qui lui avait parlé, et a empêché Balotelli de s'exprimer.
C'est Bonucci, qui a empêché
la bouche. Il a pris la tête comme ça, il a empêché de faire un mauvais geste.
Il l'a câliné pour quand même.
Il a complètement mis la main sur la bouche. Pardonnez-moi, enfin, c'est.
On revient plus là-dessus.
Non, mais je fais juste.
Ça m'énerve. Ce
truc que ça vous énerve, c'est entendu, mais c'est une des images de l'Euro. Donc ce qu'a fait Balotelli ce soir.
La reprise, le retourné acrobatique, et le but, c'est une image de l'Euro.
C'est une des images complètement anecdotiques de cet Euro où tu vois un joueur mettre sa main sur la bouche pour empêcher Balotelli de parler.
Enfin, c'est pas l'essentiel quand même. Hein. Et c'est même, je veux dire, Pascal, c'est rien du tout. Moi, j'ai vu le match.
Ça va pas revenir dans cette affaire.
Ouais, on va pas revenir là-dessus.
Non, mais enfin, on a beaucoup parlé déjà.
Les Italiens,
il lui passe la main dans le cou, enfin, il le tire vers lui et il lui met pas la main sur la bouche. Il fait pas comme ça. Enfin, bon, regarde, c'est pas la télé. Mais bon, alors, nous en étions où là?
Au bleu.
Aux Italiens. Rappeler, parce qu'on parlait de l'Italie, on peut quand même rappeler les deux résultats du soir. Rappeler que l'Espagne s'est qualifiée en s'imposant face à la Croatie 1-0. L'Espagne leader et l'Italie a battu l'air 2-0. L'Italie qualifiée également deuxième de son groupe.
Bien. Alors,
on était au milieu de terrain français.
On en était au milieu de terrain.
Il nous reste maintenant l'attaque.
On a fini le milieu.
On conserve Nasri alors.
Oui.
On conserve Nasri. On a discuté, mais voilà.
Oui, ben.
Ce qui est frustrant, c'est que Martin n'est pas de temps de jeu. Voilà.
On fait une pub.
RTL.
On refait le match.
Technicité. Vivacité. Impertinence.
Eugène Saccomano.
On refait le match. On refait le match ce soir avec Verdez, Bilderman, Sini. Sini de Marseille. Sini. Notre ami Machelot et puis Pro. Alors, nous avons parlé de la défense, nous avons évoqué le milieu de terrain, nous allons parler maintenant de l'attaque. Et de l'attaque avec au milieu de terrain, on n'a pas parlé de Nasri forcément, puisqu'il est plus un attaquant qu'un milieu, mais enfin, il a ce rôle de soutien derrière Benzema. Bon, alors, les trois de devant.
Ribéry, on peut le laisser, à mon avis. Benzema aussi, il faut le laisser, parce que Benzema, effectivement, même si Giroud aimerait bien jouer, il pourrait jouer, Benzema a besoin de marquer un but, besoin de confiance, besoin de...
Il a envie de marquer un but, ça se voit, nettement.
C'est pas possible de le sortir, parce que ce serait apparenté à une mise à l'écart et à une nouvelle possible perte de confiance de Benzema.
Je pense que ça créerait plus chez lui de la frustration qu'une sensation de mise à l'écart. En plus, on sent que physiquement, il est plutôt bien. Toutes ces prises de balles, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est ces prises de balles, ces passes, ces gestes, tout est tranchant, tout est effectué.
Absolument.
Vous voyez, ce genre de gars, quand il a le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Ça faisait longtemps que c'est plus arrivé en équipe de France.
Changer Benzema par Giroud, c'est changer la philosophie de l'équipe. Ce n'est plus le même jeu, c'est tout changé.
Je suis d'accord.
Là, c'est trop important.
Giroud, on peut essayer de les associer, mais pas l'un sans l'autre. C'est Giroud, non, c'est pas du tout le même jeu, effectivement.
Non, parce que là, on se rend compte depuis deux matchs que Benzema dézone. Benzema devient l'homme de la dernière ou de l'avant-dernière passe. Donc, on a vu sur le deuxième match que l'équipe a commencé à se construire autour de ce postulat sur le plan offensif. On a vu Cabaye être présent dans la surface. Il a marqué un but, il a failli en mettre un deuxième. On a vu les milieux de terrain, effectivement, rentrer, repiquer dans la surface pour être présent sur des passes en profondeur, sur des redoublements de passes que pouvait proposer Benzema. Donc, aujourd'hui, avec ce schéma qui est en train de se mettre en place, on ne va pas tout bousculer et sortir Benzema pour mettre Giroud en pointe.
Je le crois,
ça sera le bordel.
Je ne dis pas qu'il faut le sortir, je dis simplement qu'il faudrait, à mon avis, le remplacer un peu plus tôt. Regardez, toutes les équipes qui se qualifient, elles changent leur numéro 9, elles changent leur pointe. L'Espagne joue beaucoup sur la rotation. L'Allemagne aussi, 9, l'Italie aussi. Eh oui, mais ils n'ont pas 9. Si, ils ont des 9, mais ils ne les font pas jouer.
Mais
ils coachent. Il y a Torres, il le sort, il change. Il change tout le temps. Donc, ça va être difficile si Benzema doit porter physiquement sur ses épaules l'ensemble de la compétition. Moi, je le ferais bien sortir à la 60e minute.
Alors, ça dépend du déroulement du match. Hein. Si on en a besoin, il ne sortira pas non plus. Hein.
Bien sûr.
Bah oui,
mais dans l'idéal, dans le coaching idéal,
un quart d'heure avant la précédente rencontre. Il peut sortir à 75e.
L'idéal, c'est qu'il faut qu'il marque, rapidement en première mi-temps et à la 60e, il peut sortir. Et puis voilà, quoi.
C'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme Balotelli a marqué ce soir, c'est la seule star, puisqu'on met Benzema quand même dans les stars, Balotelli, qui n'a pas marqué.
Balotelli, c'est une star médiale, pas du foot.
C'est une star quand même. C'est même
le titulaire indiscutable du champion d'Angleterre.
Par son comportement.
C'est plus une star extra-sportive.
Il nous reste un troisième attaquant, et c'est là que le problème se pose. Menez ou pas Menez? On le garde ou on le garde pas? On le garde, bien sûr, pour cette équipe de France. Mais je veux dire, on l'aligne contre la Suède ou pas?
Moi, je vais encore revenir à
l'Espagne. Oui, on l'aligne. Je crois que
c'est lui qui nous a mis le feu à droite.
Ouais, l'argument du carton jaune ne tient pas parce que c'est le seul poste sur lequel on puisse aligner quatre joueurs. Alors, pas avec les mêmes caractéristiques, mais entre Nasri, Benzema, Ben Arfa, Menez et Valbuena, on est très riche de ce côté-là. On a multiples options, donc ça, on va pas se priver de Menez et lui donner du temps de jeu, de la confiance.
Mais justement, c'est parce que tu as les meilleures options, c'est là où tu es le mieux pourvu et le mieux doté, et tu vas te priver du meilleur, tu risques de te priver du meilleur pour les quarts de finale, parce que...
Je suis pas persuadé que ça soit le meilleur. C'est le plus imprévisible, mais si
c'est le plus en confiance en ce moment. Ouais, ce poste-là, les autres, ils ont pas joué depuis 6 mois.
Il y a des joueurs qui...
Il met le feu quand même.
Oui, il met le feu.
Il met le feu dans toutes les défenses.
Moi, je me rends compte, si en quart, tu l'as pas pour les quarts de finale face à l'Italie...
Mais tu peux pas faire jouer...
Pour les demi-finales, tu risques pas l'avoir en demi-finale.
Non,
parce que tu remets à zéro les cartons.
Je vous trouve terriblement français, quoi. Vous n'avez tiré le leçon de rien du tout. Vous n'avez pas vécu France-Israël, France-Bulgarie. Pour vous, on est en quart de finale.
Non, parce que
mais c'est incroyable le discours.
France-Israël, France-Bulgarie, fallait au moins nul.
Mais non, mais vous les Bleus vont se faire battre par l'Ukraine, vont se faire battre par ci, battre par ça.
Ah, c'est ce qu'on avait annoncé.
Ça, c'est terriblement français. De partir dans le défaitisme et de ne pas avoir d'ambition et de projection sur le positif, sur le bonheur, sur l'avenir, sur la joie, cher ami.
Excusez-moi d'être un peu... Excusez-moi d'être un peu méfiant.
Et sans frustration, ni jalousie.
Oh bah, j'ai pas de jalousie de Ménès, a priori. Mais vous n'avez rien compris à France-Israël et France-Bulgarie. Pour vous, on est en quart de finale. Non. On peut mettre l'Amérique, là. Hein. On peut chanter, si vous voulez. Faut d'abord gagner contre la Suède, ami. Faut d'abord gagner. Vous êtes en train de projeter...
Ne pas perdre.
Mais même si vous voulez,
mais je vous répète,
la différence de la Bulgarie,
je vous répète,
là, on peut perdre,
qu'il nous fallait un point avant de jouer Israël et Bulgarie,
et là,
qu'on en a pris zéro.
B, là.
Mais si,
mais non.
Vous êtes en train d'enlever des joueurs pour penser au quart de finale. Monsieur Cini est en train de nous dire, mais vous vous rendez compte, le match contre l'Italie, si on joue sans Menez, mais c'est pas du tout l'Italie demain qu'on joue. On joue le troisième match du championnat d'Europe pour se qualifier.
Absolument, et on essaie de savoir quelle composition idéale aligner.
Et ben, faut mettre la meilleure possible, et ne pas faire vos calculs d'apothicaire.
Mais là, c'est
pas
ça
d'économie,
que...
alors.
C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, mon
cher
Pascal.
Tu vas tuer les joueurs avant l'écart.
C'est que, Eric,
vous allez mettre d'autres joueurs et on n'y sera pas.
Mais je ne suis pas sûr que Ben Arfa fait virer l'équipe.
Voilà, Eric l'a dit, à droite, c'est là où on est le mieux, mieux doté.
Je parle pas de Valbuena, je parle de Ben Arfa.
Mais tu peux parler de Valbuena. Je vous dis que votre attitude de calcul de je sais pas quoi, qui nous explique qu'il faut ménager les uns et les autres pour un quart de finale hypothétique, me rappelle une situation que j'ai vécue qui était
non, quand même pas hypothétique. Parce que quand même si on perd d'un point, on va en quart de finale.
D'un but.
Ah oui. Ouais.
Alors que dans votre exemple bulgare et d'Israël, il fallait au moins match nul.
Annoncer la couleur pour vous. Alors annoncer la couleur pour vous. Nous sommes qualifiés demain.
Ah bah on a un pied et demi en quart de finale.
Qualifié. Voilà. Après il faut
un pied et demi.
Bon.
C'est comme si vous aviez gagné 2-0 à l'aller à l'extérieur.
C'est bien ce que je vous dis depuis le départ.
On essaie de débattre sur une éventuelle composition d'équipe de France. Après, si tu rejettes ce débat au nom de tes frustrations et blessures passées que je comprends...
Non, mais avec comme postulat que nous sommes qualifiés.
Non, mais non.
Monsieur Cini dit on a un pied et demi.
Un pied et demi.
Ben oui, on a un pied et demi. Puisque
d'accord.
2-4 figures sur 3 nous sont favorables.
Dans le football, il y a quand même une certaine logique. Alors, je dis bien qu'elle n'est pas respectée à chaque fois. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, quand vous avez une victoire, vous qualifie. Un nul vous qualifie, et même une défaite peut vous qualifier, Pascal. Au bout d'un moment, voilà. Je veux dire, c'est de la logique et des maths, quoi.
Moi, je mettrai demain la meilleure équipe possible.
Vous jouez contre une équipe qui est déjà éliminée.
Mais Laurent Blanc aussi, le prix.
Oui, voilà, ça qui fera des changements. Mais la meilleure équipe possible n'est pas forcément celle qui a battu la Suède.
Voilà. Je crois qu'en faisant 2 ou 3 changements contre la Suède, ça ne diminuera pas forcément l'équipe.
Absolument.
On n'a pas une équipe avec suffisamment. Il y a quelques individualités qui sont intouchables.
Avec la confiance, c'est bien. Même si on perd demain dans votre raisonnement, moi je vous trouve vraiment parfait. C'est-à-dire que même si, alors nous sommes qualifiés, mais on peut perdre demain, donc c'est un peu votre raisonnement. J'extrapole un peu.
Oui, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, là vous vous mettez dans mon cerveau et vous êtes en train de le pervertir.
On peut perdre à zéro, donc on va se enlever toute la confiance qu'on avait acquise déjà difficilement depuis des mois. Ce n'est pas pour tout ça. On va perdre tout ça pour vos calculs.
Pascal, ce n'est pas qu'une question d'automatisme, c'est aussi une question de gestion du tournoi, de lâcheur. Regarde aujourd'hui l'Espagne.
Je vais vous mettre Marvin Martin dans l'équipe qui n'a pas un match.
Del Bosque a aligné la même équipe qu'au deuxième match aujourd'hui. Ils étaient, on le voyait, ils étaient fatigués, ils manquaient de jus.
Laurent Blanc, il intègre. Vivacité surtout. Laurent Blanc va faire, parce que j'espère qu'il ne vous écoutera pas, c'est qu'il fera du coaching à la 60e minute. Oui. À la 60e minute, tout ce que vous avez dit est juste. C'est-à-dire qu'il fera rentrer à la 60e minute, pourquoi pas Marvin Martin. Il fera rentrer à la 60e minute, pourquoi pas réveiller à la place de Debuchy. Il fera rentrer, il sortira Menez. Pourquoi pas ? Mais pas d'entrée de jeu.
Mais la différence entre ton raisonnement et le nôtre, puisqu'on le partage, c'est que nous, on écoute ton raisonnement, on l'admet, et on ne dit pas que si Laurent Blanc fait ça, c'est un suicidaire, c'est un français, c'est un je ne sais quoi. C'est tout à fait crédible, ton raisonnement. Mais laisse-nous penser que celui qu'on est en train de défendre, qui a été celui qui a été le sien entre le premier et le deuxième match, qui pourrait être le sien entre le deuxième et le troisième match, d'adapter la composition de son équipe à la gestion de son groupe et à la gestion du profil technique, psychologique et physique de l'adversaire, fait partie des possibilités et que ces possibilités-là méritent le respect, c'est tout.
Mais évidemment que...
Mais non, tu ne respectes pas. Tu nous traites... Vous êtes des
fous. Vous êtes
trop... Tu vas un peu fort, Eric, là.
Non, tu ne respectes pas notre pensée.
Je respecte complètement votre pensée puisque je vous dis que vous êtes terriblement français.
Non, mais dans la lignée, de ce qu'il a fait, en plus, et il nous explique ça pendant des heures... Blanc analyse beaucoup le jeu de l'adversaire et parle à ses joueurs de l'adversaire. C'est pas de s'adapter totalement à l'adversaire, c'est de tenir compte des points forts et des points faibles de l'adversaire. Les équipes n'étant pas semblables à chaque match,
oui, mais vous avez changé. Maintenant, vous avez bien compris qu'il ne fallait pas modifier l'équipe parce qu'on était en quart de finale. Donc, vous réajustez votre. Mais bien sûr,
c'est démocratique, Pascal, quand même. Là, tu deviens quand même.
Je comprends. Mais il n'a pas dit qu'il était démocratique, il a dit qu'il était républicain.
Je dis qu'il va changer un ou deux joueurs en tenant compte de la Suède, des caractéristiques.
Mais c'est parce que tu disais tout à l'heure, tu disais que on changeait l'équipe en fonction du quart de finale. Donc, c'est pas du tout.
Il faut évidemment, il faut avoir une vision à long terme. Qu'est-ce que
c'est que cette vision ? Il faut savoir ce que vous dites.
On est deux personnes différentes, Gilles Verdez et moi.
Il faut garder la même équipe pour garder de la confiance.
Mais tu nous as expliqué que le premier match n'était pas bon.
Mais tu nous as expliqué que Diarra était bon toute la saison, il est mauvais, tu veux le sortir. Tu veux que je ressorte tout ce que tu as dit depuis 6 mois. Bon. Alors, je te dis, demain soir, il mettra la meilleure équipe possible et il changera quasiment rien.
On est tous d'accord là-dessus. Voilà.
Donc, tu as des infos, on est tous d'accord.
Alors, comment se fait-il, je pose la question, comment se fait-il qu'entre le premier et le deuxième match, il fait des changements?
Parce qu'il n'était pas content du premier, c'était une catastrophe le premier.
Deux changements.
Mais c'est ce que
je
vous ai expliqué, c'est que le premier match, il était absolument pas content de son équipe, contrairement à vous qui trouviez ça formidable. Donc il a changé beaucoup de choses, il a dit avec la première demi-heure, si on la refait, on sera éliminé. Donc là, il a trouvé quasiment son équipe type et demain, il la gardera. Mais c'est vous, mais comme vous dites les choses en fonction de ce que vous avez dit il y a 2 mois, 3 mois,
Pascal,
etc. L'équipe contre l'Angleterre, l'équipe de France a été très mauvaise. Vous l'avez trouvée très bonne. Très mauvaise.
Tu es malade ou quoi?
Bah non. Je suis pas malade. La preuve, c'est qu'il l'a changé.
Non, très prudent, très mauvais. Elle s'est pas lâchée.
Donc moi, je vous dis ça depuis le départ. Donc il a dit lâchez-vous. Je lâche les joueurs, je fais une équipe différente. Il a dit en conférence de presse, vous voulez pas l'entendre. Si on rejoue comme ça la première demi-heure, on ne passera pas. Vous ne voulez pas entendre cela parce que vous aviez décrété que l'équipe de France avait été bonne contre l'Angleterre.
Oui,
Mais il y a 3 minutes, Pascal, vous nous disiez que Laurent Blanc attachait beaucoup d'importance à son adversaire dans sa composition d'équipe. Peut-être qu'effectivement entre l'Ukraine et l'Angleterre, il s'est dit que c'était pas la même équipe. Il a aligné des joueurs différents avec un système tactique différent pour s'adapter à l'Ukraine. Bon. Je pense que demain il fera la même chose face à une autre équipe.
Nous allons parler des possibles adversaires en quart de finale si nous y arrivons. Mais auparavant, je vous propose tout de même de parler un peu de l'équipe de Suède. Est-ce qu'elle sera totalement démobilisée? Est-ce qu'elle sera fortement mobilisé au contraire par la prime énorme que les joueurs vont toucher en cas de victoire. Vous le savez, hein,
les Suédois. Surtout la fédération.
Oui.
Ils partageront peut-être, de s'impliquer.
Un million d'euros.
Non, moi je crois qu'ils ne seront pas du tout en vacances parce que d'abord, vis-à-vis de leurs supporters, ils ne peuvent pas se le permettre. Il y aura beaucoup de Suédois qui avaient réservé pour les trois matchs et qui seront encore là. Ensuite, ils veulent conforter le sélectionneur qu'ils aiment bien, notamment Ibrahimovic, pour la suite des prochains éliminatoires des autres compétitions. Ibrahimovic étant le leader, il va mobiliser ses troupes. Et en plus, c'est une équipe qui est en reconstruction avec des éléments à intégrer. Donc je ne pense pas qu'on verra une Suède moins forte que lors des deux premiers
matchs. Ce genre de match, c'est toujours un piège. On peut croire qu'ils sont démobilisés, mais d'un autre côté, ils n'ont rien à perdre. Un match à tournevis, ils peuvent jouer. Et ça peut vite tourner.
Comme disait Laurent Blanc tout à l'heure, il disait, tout va dépendre du début du match. Effectivement, une équipe comme ça, qui arrive assez décontractée, qui part bien dans le match et qui te met en difficulté, la pression, elle monte. Mais sur l'équipe sûr. Qui est censée eux, être en phase de se qualifier. Et en revanche, celui qui doit se qualifier met le pied sur le ballon, physiquement gagne les duels, a la chance dans les 20 premières minutes de marquer, là, après, normalement, ça confine à une promenade de santé.
Il n'y a qu'à regarder l'Italie-Irlande qu'on a vu ce soir, dont on va parler dans un instant, mais l'Irlande a fait certainement l'un de ses meilleurs matchs face à l'Italie, parce que l'Italie a complètement déjoué au bout d'un moment avec la pression. L'Italie s'en sort 2-0, mais franchement, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match.
Eh bien, tiens, on va en parler tout de suite. On va parler des deux matchs de la soirée, c'est-à-dire Espagne-Croatie et Italie-R. Alors, Espagne... j'ai un petit problème là. Espagne-Croatie d'abord. Et il se trouve que l'Espagne a eu de la difficulté ce soir. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Vincent Macheteau, il y a non pas une usure, mais il y a deux gros matchs auparavant, et elle a eu quelques difficultés contre les Croates, qui sont très bons en plus, qui sont bons, pas forcément très bons.
Ils sont bons, vicieux, bons, malins, expérimentés.
Voilà.
Mais pour la première fois depuis très longtemps, c'est ennuyé en voyant jouer l'Espagne. Oui. Comme quoi, effectivement, ce jeu est magnifique, c'est quand ça tourne, quand ça part de tous les côtés, c'est beau. Mais quand ça ne débouche sur rien du tout, ça peut devenir très très vite ennuyeux.
Et là,
la Croatie a donné une très très bonne leçon et devrait inspirer les futurs adversaires de l'Espagne, parce que elle n'a pas cherché spécialement à défendre comme les autres en se mettant à deux lignes de 4 et 8 derrière dans les 20 mètres. Elle a joué plutôt haut. Ils ont été plutôt timides offensivement.
Oui, voilà.
Oui, parce qu'ils n'ont pas d'armes, à part Modric. Pas grand monde dans cette équipe. Oui. Mais enfin, ils ont carrément empêché, sans défendre, l'Espagne de jouer.
Ils ont empêché Verdez. L'Espagne de jouer, mais si tu fais ça sur un quart de finale où tu dois quand même marquer, à moins que tu vises les tirs au but, c'est compliqué. Je trouve pas.
Tu peux.
Ils ont joué à fond leur carte. Je les ai trouvés très bien organisés, très bonne équipe, mais manquant quand même de peps.
Il n'y a que Modric devant.
Non, mais ils sont quand même créés de belles occasions. Il y a eu cette fameuse tête que Casillas détourne.
Ce fameux centre de Modric.
Et le pénalty. Et il y a un pénalty pour eux.
Et
on leur concède un but. Bon, même s'il vient très tard, que ça ne change pas le cours de la qualification qui semble être hors-jeu.
Limite hors-jeu.
C'est vrai que ça fait quand même beaucoup... l'ensemble des décisions arbitrales sur ce match-là laisse quand même à penser que la prime au tenant du titre et à la belle Espagne championne du monde
a joué.
On commence à tirer les premiers enseignements du premier tour. L'Espagne est aujourd'hui décevante globalement.
Non, il y a un truc que je comprends pas.
Elle a joué trois matchs et l'Allemagne.
On peut pas te laisser dire ça. Contre l'Italie, c'était un super match, une opposition de style magnifique. L'Irlande, ils donnent une leçon de football à l'Irlande qui n'est pas une mauvaise équipe. Et là, ils ratent leur match. Justement, parce qu'à mon avis, Del Bosque n'a pas osé changer, a remis les mêmes 11 joueurs qui ont retiré la langue au bout de 50 minutes.
Vincent, ce que tu dis, contre l'Italie, elle est en difficulté défensivement. Et si l'équipe de France prend un but comme l'Espagne en prend un, je pense qu'on lui tombera dessus. Vous en conviendrez. Le but italien, je parle de l'ouverture du score d'ailleurs, des Italiens.
La tête décroisée de notre ami.
De Di Natale. Je trouve que ce soir.
Non, le premier.
Le but italien, c'est Di Natale.
Di Natale, le but.
Oui, oui.
Bon. Ils ont quand même une circulation de balles, les Espagnols. Non, mais c'est très impressionnant.
Ils ont un bon niveau.
Il y a un truc que je comprends.
Par rapport à ce qu'on attendait, et ce soir, franchement, la première mi-temps, c'est la plus mauvaise mi-temps de l'Euro.
Pascal, on peut aussi les soupçonner de ne pas avoir tout donné quand même. Ils ont gardé un peu sous le.
Comme en Ligue 1.
Apparemment, certains. Iniesta n'a pas fait le match de sa vie, visiblement.
RTL. On refait le match, Eugène Saccomano.
on refait le match, on refait le match, on a encore 10 grosses minutes pour continuer de refaire ce match et de refaire celui de demain. Par anticipation.
Celui-là, alors, de demain, vous l'avez fait déjà, manifestement.
Oui, on va parler de. On va parler, donc, on était sur l'Espagne.
Il n'y a pas eu de biscotto, Eugène, ça c'est bien.
Il n'y a pas eu de biscotto. Voilà.
La morale est sauve.
Mais moi, j'ai une question quand même pour Vincent, qui est spécialiste du foot espagnol, ici autour de cette table. Je ne comprends pas ce que fait Del Bosque. Del Bosque, au premier match, il fait une équipe sans attaquant. Au troisième match, là, il fait sortir Torres et il revient dans son système sans attaquant non plus. Alors que le problème de l'Espagne, ce qu'on voit depuis quelques matchs, c'est qu'ils jouent au hand. Ils se font des passes autour de la surface de réparation. Ouais. Alors sur le banc, il y a quand même un type toute la saison. Il y a un formidable attaquant de l'Athletic Bilbao, extraordinaire, Llorente. Il est sur le banc.
Il Torres, est pas en forme, il est légèrement blessé.
Torres qui revient. Et là, il veut pareil, faire. Et Negredo, c'est ça le dernier.
Ouais, il veut
et
faire.
Lui non plus, il joue jamais.
Il est bon, Negredo.
Ouais. Ben, ils sont tous bons. Ils sont tous bons, mais ils jouent jamais.
Il joue au signal que le Football Club Barcelone a joué toute la saison et même la saison d'avant.
Ils avaient Messi.
Sans avancer.
Ah, mais comparez pas, ils ont Messi. Ils ont Messi. Ne me comparez pas le Barça avec l'équipe d'Espagne. Ils ont Messi, ça n'a rien à voir. Ne pas comparer.
Cyprien, moi je vais te dire, je préfère l'Espagne du premier match contre l'Italie que la deuxième avec Ferran Torres. Ferran Torres est un très très bon joueur. À mon avis, c'est pas le Torres d'il y a 2-3 ans non plus. Il est moins aérien, moins fluide. Il est toujours aussi puissant, mais il est beaucoup plus lourd. Et en plus, je trouve qu'il ne se marie pas spécialement avec le jeu hyper technique, brillant, rapide, à une touche de balle.
Mais c'est Espagnols. Un jeu stérile.
Je préfère. Avant l'entrée de Torres, Fabregas en position d'avance, de fausse avançante, il se procure combien d'occasions? Buffon est en danger 5-6 fois. Revoyez le match, ne perdez pas la mémoire.
Non, mais c'est extraordinaire parce que le simple
comme
fait.
Comme Benzema a décroché, on a joué comme eux, sans avançante.
Le
c'est
simple
pas mal,
fait de
comme
vous dire l'Espagne est décevante. C'est pas
mais l'Espagne m'a déçu ce soir, moi. J'ai même failli m'ennuyer.
Attendez, n'oubliez pas qu'à la Coupe du Monde, ils avaient perdu leur premier match quand même.
Non, mais
c'est l'équipe qui s'est gérée maintenant.
Bah non, pas du tout. À la Coupe du Monde, ils jouaient avec Villa. Ils jouaient avec un attaquant.
Ils avaient perdu leur premier match.
Non, mais ils jouaient avec un attaquant.
C'est une équipe qui monte.
Là, ils jouent sans attaquant.
Non, avec un attaquant qui se marie avec le jeu.
Moi, je vais vous dire la question. Et franchement, j'avais pris des précautions, mais finalement, je vais pas les prendre. Je pense que l'Espagne. On peut peut-être imaginer qu'elle est en fin de cycle, sur ce que je vois sur ce premier tour. Je suis vraiment très déçu de l'Espagne.
Ah ben écoutez, moi j'ai un avis contraire. Dans le fond, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde est en train de porter au nu cette équipe d'Allemagne en disant vous allez voir ce que vous allez voir, etc.
Qui m'a enchanté.
Elle m'a pas enchanté. Elle m'a enchanté par ses résultats, je veux dire. Et c'est vrai qu'elle fait un bon parcours, mais encore elle est loin d'avoir la valeur de l'équipe espagnole. Voilà.
Ouais, alors, ce qui est intéressant dans cette conclusion, parce qu'on annonce déjà une finale entre l'Espagne et l'Allemagne, mais c'est que dans cet Euro, on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'il y ait, même avec ces deux favoris sur le papier, qu'il y ait une ou deux équipes qui dominent son sujet. L'Espagne nous déçoit, je suis d'accord avec Pascal. L'Allemagne, on sent qu'elle est dans un potentiel, mais il n'est pas encore abouti. Elle est de plus en plus costaud.
C'est la seule qui a gagné 3 matchs.
Mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu peux l'imaginer sur un quart ou sur une demi-finale passer à côté. Et les autres équipes, le premier match, la Russie, on faisait de la Russie un outsider.
Même un favori, presque.
Bye bye la Russie. L'Italie, le premier match, il y avait quelque chose, il y avait une dynamique, il y avait une magie. On ne peut pas dire que cette magie allait perdurer, même s'ils sont qualifiés. Le Portugal, c'est une fois oui, une fois non. C'est compliqué.
Sur l'Allemagne, il y a quelque chose qui a changé par rapport à l'Allemagne des anciennes des dernières compétitions. C'est que cette Allemagne-là, elle a retrouvé un peu d'austérité qui va lui permettre d'être moins joueuse et de moins partir à n'importe comment devant et de tirer mieux ses temps faibles.
Austérité alors, devant les Grecs, c'est dur quand même.
On n'avait dit pas de jeu de mots là-dessus.
Alors, Verdez.
Ceux qui partent fort dans un euro sont rarement ceux qui arrivent à la fin. Et n'oubliez pas qu'à la Coupe du Monde
2010, l'équipe de France avait gagné ses 3 matchs. Quand même
oui, rarement, j'ai dit. Il y a quelques exceptions, mais c'est extrêmement rare. N'oublions pas que l'Espagne gagnait tous ses matchs 1-0 à la Coupe du Monde. Hein. 1-0. Ils n'ont jamais fait des scores faramineux. Ils n'ont jamais eu des buteurs qui accumulaient. Voilà. Donc, ils jouent là-dessus. Il faudra leur prendre le ballon. Ils monopolisent. S'il y a un France-Espagne, on n'aura pas le ballon. Alors, il faut le prendre, donner un contre deux. Mais on n'a pas le ballon face aux Espagnols.
On a les moyens de le conserver, nous aussi, quand même.
Mais ça va être difficile.
Je vous dis d'abord, évidemment, que l'Espagne reste parmi les plus grandes. Mais ce soir, les 45 premières minutes, c'est la mi-temps la plus décevante de l'Euro, quand même.
Il a raison.
Moi, non, pas pour moi.
On s'est ennuyé.
On
n'avait pas vraiment vibré lors de Pologne-Grèce, quand même.
C'est pas nos
Pologne-Grèce,
c'est l'ennui. Il faut qu'on s'ennuie.
On parlait tous en même temps, là. Alors, simplement, je reprends un peu votre raisonnement. C'est vrai qu'en premier mi-temps,
c'en était, hein.
L'Espagne a été un peu fatigante par son
rôle. Mais même le oui. Bon. Mais je vais vous même dire, deuxième, ça, franchement, oui. Eugène, miracle est un peu fort, mais c'est une très grande chance pour l'Espagne de gagner cette rencontre. Casillas a sorti des arrêts remarquables. Il y a un pénalty qui est passé.
À 0-0, il passait, Pascal.
C'est non, mais vous,
n'est pas là.
Non, mais si, oui, mais attendez, il ne devait pas avoir un 0. Il y a un pénalty. Vous, vous passez sur tout. Vous passez sur le pénalty. Vous passez. C'est extraordinaire, le pénalty, quand même. Bah oui.
Non, mais sérieusement, il y a un ou deux pénaltys refusés aux Croates, injustement. Et
si
y a
vous étiez croate ce soir.
Sur le but espagnol, il y a un contrôle de, du bras. Ou
et
non,
il est peut-être en jeu.
Si vous étiez croate.
En jeu, oui. Bras, je suis pas
d'accord. J'ai l'épaule.
Si vous étiez croate ce soir, que ne diriez-vous pas?
Ah ben ils l'ont dit, les supporters là. Et Bilic aussi. Hein.
Mais,
il était furieux.
Mais c'est, plus, mais c'est bien normal.
Oui, vous, mais vous c'est, dites, bah ouais, c'est la compétition.
Ah ben c'est la compétition, non, mais si demain il y a le même arbitrage.
Iniesta vient de dire qu'il a ressenti un coup de fatigue important à l'image de toute l'équipe. Vois, voilà, il y a la thèse de la fatigue. Hein.
Voilà. T'écoutes,
absolument.
On n'aura plus beaucoup de temps. On va dire deux mots sur l'Italie qui sera quand même probablement.
Si la France se qualifie.
Si la France se qualifie.
Et termine première.
Probablement notre adversaire en quart de finale. Alors deux mots sur l'Italie. Elle a abandonné sa défense en 3.
C'est dommage.
Pour se retrouver à 4 derrière.
Ouais.
Moi, je trouvais que c'était pas mal, la 3.
Ouais, moi, l'Espagne. Ouais, alors ça ne lui a pas donné une fluidité, une confiance et une circulation de balles et un équilibre tel que ça soit forcément convaincant. Ce n'était que l'Irlande en face. Mmh. Et l'Irlande leur a posé quelques soucis. En tout cas, ça n'a pas été évident. Ils n'ont trouvé la solution, les Italiens, que sur un coup de pied arrêté, une fois de plus, un petit caviar signé Pirlo sur corner. Mais dans le jeu, ce n'était pas brillant. En revanche, on peut s'inquiéter de la rentrée de Balotelli, parce que ce but, dans l'état d'esprit de ce joueur, qui est un joueur cyclique et un joueur très compliqué à gérer, là, il va être porté par une dynamique et de retrouver un Balotelli dangereux comme il peut être et pas dans la phase dépressive qui était la sienne sur son comportement lors des deux premiers matchs, c'est pas une bonne nouvelle.
Et là, ce qui est intéressant quand même dans cette équipe, c'est que Chiellini, hein, qui est le défenseur central de la Juve,
bon
qui est un peu le patron de cette défense italienne, à deux ou à trois, comme vous voulez, il est sorti sur blessure, un claquage, et donc on sait pas trop, mais a priori, il pourrait risquer de rater le match contre la France. Ce qui ferait nos affaires.
Si c'est un claquage, il, c'est
même, mais du coup,
même le reste.
Ça, c'est 15 jours.
Ce qui imposerait aux Italiens de repasser, ça c'est moins bon pour nous, une défense à trois, ce qui était pour moi la meilleure trouvaille de cette équipe italienne, avec De Rossi qui descend. Et là, il y a le retour de Barzagli et de Bonucci en défense centrale.
Ce sera de toute façon un quart de finale de très haut niveau. Hein. Oui, franchement, l'une ou l'autre équipe, il faudra une équipe de France encore plus forte qu'elle ne l'a été jusqu'à présent.
On va terminer en essayant de se prononcer sur deux sujets. Sur d'abord Ronaldo et le Portugal. Ronaldo qui s'est réveillé brutalement et qui a donné vraiment la... l'avantage, pas à lui seul, mais enfin, au Portugal qui a bien joué.
Non, il a été très très bon, mais enfin, faut pas oublier Nani, quand même, qui, à mon avis, fait un match aussi extraordinaire que Ronaldo, à part qu'il n'est pas à la concrétisation, mais il est au départ de toutes les actions, Nani.
Oui, c'est beau ce qu'il a fait. C'est vrai, non, mais tout le monde l'a.
Non, mais Cristiano Ronaldo
a été décisif, bien sûr, de poteau, de but, toujours aussi un peu agaçant. D'ailleurs, beaucoup de Portugais au journal discutaient. Ils sont encore un peu méfiants. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous réserver le prochain match? Parce qu'avec Cristiano Ronaldo, on ne sait jamais. Enfin, là, on pense qu'il est lancé. Et puis bon, le prochain match, il suffit qu'il retombe vite dans ses petits défauts.
C'est pas lui qui dit que les buts, c'est comme le ketchup. Ils viennent tous d'un coup quand on n'arrive pas à en marquer. Puis d'un coup, on en marque et ils arrivent tous d'un coup. Bah, voilà, il en a mis deux. Il va peut-être en mettre d'autres. Ouais.
Alors, enfin,
Cristiano Ronaldo, moi, les grands penseurs, monsieur.
On va dire un mot sur la fin des Pays-Bas. Enfin, la fin peut-être provisoire, mais ils ont été zéro point. En trois matchs.
L'équipe de France au dernier Euro, par exemple.
Voilà.
Hein, un petit peu. Ça me fait penser à la comparaison.
En 2002.
Comme souvent, on a senti une équipe
2008,
désunie.
2008.
Hein, on a senti une équipe désunie, sans solidarité, chacun pour soi.
La guerre des égaux.
Ouais, un peu ça.
Non, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps ça alors.
Souvent, mais il y a des fois, t'arrives en finale quand même.
Une fois, ça n'a pas été ça. En 1988, arbitre central Vautreau, grande équipe de Hollande, j'étais, c'était
avec Richard, Van Basten.
Mais pourtant, ils ne s'entendaient pas bien ensemble.
En 1994, c'était pas mal non plus quand même.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'ai pas connu Cruyff, tout ça, cette grande. Je n'ai pas connu vivant ces trucs-là, je l'ai vu plus tard. Mais Van Basten, oui. Et depuis, j'ai l'impression, parce que Van Basten, etc., pareil, il y avait des problèmes des guerres d'égo, des problèmes des clans. J'ai l'impression que dans ces équipes des Pays-Bas, il y a tout le temps des clans, et même dans celles qui arrivent en finale. Et oui. En 2006, en 2009.
Non, mais il y a aussi fin de cycle et les vice-champions du monde ont parfois eu beaucoup de soucis dans la compétition en championnat d'Europe qui suivait.
Absolument.
C'était le cas de l'Allemagne dans les années 80, c'était le cas des Pays-Bas.
C'est structurant et destructeur que de perdre une finale de Coupe du Monde. Mais c'est terrible pour des joueurs. Exactement. Parce que soit tu gardes les mêmes et tu les as. Ils sont de toute façon détruits. Ils sont obsédés par cet échec. Soit tu fais le ménage et tu repars sur un cycle et tu ne peux pas deux ans après être présent au plus haut niveau. Et puis en ce qui concerne les Pays-Bas, regardez sa défense. Les deux latéraux n'ont pas du tout le niveau international. L'axe défensif Mathijsen revenait de blessure, il était lourd comme un camion. Et vous lisiez la semaine dernière l'interview de Van Basten dans l'équipe. Que disait Van Basten, ancien sélectionneur? Il détruit sa défense en disant nous n'avons pas une défense du niveau international, on n'a pas des latéraux qui tiennent la route et dans l'axe on est lourd. Et ben, il annonçait exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que derrière c'était une autoroute et c'est pour ça qu'il faut rester prudent sur la performance de Ronaldo.
On aurait pu espérer qu'il se montre un peu plus brillant et efficace au niveau offensif.
Ils ont eu des moments de brillance, mais pas d'efficacité.
Qui n'est pas de défense. Bon, à la Coupe du Monde, il n'y avait pas une grande défense, mais enfin, ils pesaient offensivement. Ils n'ont pas fait grand-chose.
On a vu Robben du Bayern qui fait n'importe quoi, qui joue tout seul. Enfin, voilà,
Schneider, il a fait une mauvaise saison. Ouais. Van der Vaart, il n'est plus titulaire en équipe nationale. Il reste aussi sur une saison inégale. Voilà, donc les grandes stars n'ont pas été au rendez-vous à partir de là.
Il y a les jeunes qui ont essayé de, comme Van Persie, qui ont essayé.
Oh, mais il est passé au travers. Il a pas eu.
Mais oui, non, mais il a essayé au moins.
Il faut au niveau d'Arsenal là sur cette compétition.
Alors, donc, on va terminer quand même là parce que l'heure approche, flash de minuit. Simplement sur demain, sur le match de demain, capital pour l'équipe de France qui doit
l'emporter,
faire un nul, même une défaite
nous qualifie.
Une victoire
2-0.
C'est magnifique. Mais voilà, il faut se qualifier d'abord.
En faisant tourner l'effectif, une victoire 2-0.
Absolument.
Mais plaisir, Pascal.
Force est de constater aujourd'hui.
Nous, Pascal.
On n'entend plus. Force, il doit être sur son téléphone.
Il cherche des informations sur la composition.
Bien.
Il était au huis clos.
On va se quitter et on se donne rendez-vous. On donne rendez-vous à tous nos amis sur RTL demain pour la grande soirée avec l'équipe de France et avec nos envoyés spéciaux, avec Vicente, avec tout le monde. Et il est minuit.